Bonsoir, Bras Zéro, Brassage Radio, ici l'édition collective, celle qui arrive quand on est prêt et prête. Ben oui, parce que ça prend du temps de faire et d'apprendre à faire de la radio ensemble. Ce soir, on entendra parler de la lutte, ou plutôt, qu'est-ce que c'est être en lutte ? La lutte, à la fois quotidienne et exceptionnelle, individuelle et collective, résistante et essoufflée. Souvent qualifiée de violente ou inappropriée par ceux et celles à qui le pouvoir donne des intérêts. On ne peut pas prévoir les formes de la lutte. Elles dépendent du rapport de force, des moyens disponibles. On ne peut pas décréter qui est en lutte ou en valider les formes qui nous enchantent.
En lutte ?
La lutte...
Contre quoi ?
A ses définitions, ses sensations, ses émotions... à travers des histoires au point de vue individuel et collectif des personnes qui la font vivre. Comme beaucoup d'histoires qui commencent autour d'une bière et de complices discutants, à Bras Zéro, sur le canap de Canal Sud, on s'est demandé c'était quoi être en lutte. Et puis, ça nous a bien tenu 3 heures ensemble. Puis encore plus tard avec d'autres. On est parti sur la grève, le monde militant et son langage, ceux et celles qu'on invisibilise ou qu'on discrédite, nos impasses, nos contradictions et nos espoirs. Puis, dans le studio, chacun chacune au micro, on s'est raconté nos premiers moments, ceux durant lesquels on avait l'impression de ressentir la lutte. Ensuite, on s'est demandé c'était quoi les questions qu'on avait envie de poser et de se poser. Puis, on est parti avec nos enregistreurs et nos 5 questions, voir nos proches, nos amis, la famille, autour d'un café, en préparant un repas ou dans un hangar en pleine répétition de théâtre. Si, si, la lutte est partout. Et nous, nous sommes partis en chercher des mots dans des occasions quotidiennes avec des gens qu'on aime bien. Mais la lutte, ça fait parler, et tant mieux. Alors on a mis plus longtemps à faire cette émission qui sera en 3 volets. La première, c'est ce soir. Avec des extraits d'interviews, des textes qu'on aime et en exclusivité des jingles brasériens de lutte. Bonne écoute!
Alors apparemment on a un petit problème de son, puisque les sons étaient plutôt mal chargés dans la clé. On va aller les rechercher.
On va combler, il faut savoir meubler une lutte. Donc peut-être juste partir un peu sur une question. Donc elle est en fait qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment ? Donc tout part sur un canapé dans la grande salle de Canal Sud. On est là, on est tranquille, un peu comme maintenant, mais un peu plus détendu parce que les micros ne sont pas ouverts. Et on s'est dit comment est-ce qu'on peut aborder ces questions-là sans tomber dans le piège de faire une définition un peu chiante et excluante de la lutte avec des espèces de grands récits où on aurait des grandes héros, des grandes héroïnes qui nous raconteraient comment c'était trop fort d'être en lutte, etc. On a retourné le problème, on n'a pas trouvé de solution, on a trouvé un moyen peut-être de faire et on a posé des questions. Alors je peux relire les questions qu'on a posées, on va entendre tout au long là, on va entendre des entretiens. Et les questions c'est, est-ce que tu as l'impression d'être ou d'avoir été en lutte ? C'était comme ça, c'était le début. La question 2, c'était est-ce que tu peux raconter un moment où il y a quelque chose qui ne te va pas et que tu tentes quelque chose contre ça, toute seule ou à plusieurs ? Pourquoi est-ce que tu te mets en mouvement, tu tentes quelque chose à un moment donné ? La question 3, qu'est-ce qui à un moment a fait ou ferait que tu t'investis plus ? Qu'est-ce qui fait que tu as fait changer d'intensité ? En fait, c'était l'idée de comment est-ce qu'à un moment, il n'y a plus que ça qui compte ? Comment est-ce qu'on se jette à corps perdu dans une lutte ? La question 4, c'était à quel moment tu rentres en résonance avec d'autres ? Tu sors de l'isolement, en fait, la question du collectif. Donc on va voir, ça a donné des résultats assez différents. Les personnes qui sont autour de moi, un peu paniquées, parce que tout s'est un peu chamboulé, cette émission était bien, et pourtant là, hop, on est obligé de recommencer. C'était, bah, comment est-ce que vous avez fait, vous ? Comment est-ce que vous avez fait, vous, pour parler de ça, quoi ? Pour parler de lutte ?
Mais moi, j'ai l'impression que j'avais envie de poser la question à des personnes que j'aimais bien. Et j'en ai profité. J'étais à Paris pendant une répétition d'une compagnie de théâtre de l'opprimé. Et j'ai demandé à deux personnes que je connais un petit peu. Il y a une personne qui est conteuse et qui a une manière assez chouette et extraordinaire de raconter plein de choses, et une autre personne qui est une copine avec laquelle j'avais parlé plein de fois de féminisme et d'autres choses. Et du coup, on s'est mis en haut du grand hangar où tout le monde répétait, donc on entend un petit peu les voix dans l'entretien d'ailleurs, et on s'est installé sur des canapés aussi et on s'est posé ces questions ensemble, et c'était un moment vraiment chouette.
On peut partir alors. Définition de la lutte, ça donne quoi ?
Alors j'ai l'impression, oui, d'avoir été en lutte, parce que j'ai souvent défendu les choses auxquelles je croyais. Par contre, je ne suis pas quelqu'un de forcément combatif. J'aime pas la compétitivité, j'aime pas la violence, donc je ne suis pas en lutte dans ce sens-là. Je suis en lutte pour défendre des convictions, plutôt. Oui. Oui, ça m'est arrivé.
En vrai, j'ai l'impression d'être en lutte depuis que je suis née. Mais après, ça dépend de ce qu'on appelle lutte. Parce que tu as des luttes internes aussi. Je suis aussi beaucoup à lutte contre moi-même par rapport à des allants que je pourrais avoir et que je combats, même au quotidien. Ça, c'est le plus. C'est peut-être bizarrement la lutte la plus difficile à mener parce que c'est la lutte la plus accessible, enfin, que je pourrais le plus gagner. Mais
peut-être, je dirais que, peut-être tout le monde, hein, le début de se sentir en lutte, c'est peut-être contre l'autorité parentale. Et moi, je pense que c'est un peu les premiers trucs qui m'ont poussé à me rebeller à me rebeller.
Je pense qu'il y a, tu vois, tu parlais d'hiérarchisation tout à l'heure, il n'y a pas de hiérarchisation en fait. Enfin, tu luttes aussi, j'ai l'impression que tu luttes aussi quand, enfin, que personne a jugé de la lutte de quelqu'un d'autre, en quelque sorte. Et du coup, personne n'a à dire si cette lutte-là, elle est valable ou pas, si elle est politique ou pas. Si
vu le contexte actuel, on est plus ou moins, enfin, si t'es un minimum mobilisé par des... en tout cas intéressé par les questions politiques, t'es forcément, tu te portes en contre aussi avec les politiques actuelles, t'es obligé de te mettre de t'opposer, donc forcément t'es obligé de rentrer en lutte. Et donc j'ai été en lutte, et forcément vu le contexte actuel, politique, économique, etc., je suis forcément encore en lutte, quoi.
La lutte, elle commence au moment où tu espères et où tu prends conscience de ta force et où tu va chercher les outils, les moyens pour faire aboutir.
Pour être en lutte, c'est aussi être en lutte contre ce monde et militer de manière générale contre ce monde qu'on essaie de nous servir.
Positionner contre les politiques économiques, sociales qui sont menées par le gouvernement, et après se mettre en lutte. Après, il y a une partie plus active en fait où tu essaies de construire des mouvements, un mouvement avec d'autres copains, des copines, en fait, pour arriver à faire porter des idées, à essayer de proposer quelque chose d'autre, quoi, en tout cas. Déjà se positionner en contre et après proposer quelque chose de nouveau.
Pour moi, la lutte, c'est des pratiques, en fait. Enfin, tu peux aussi être en lutte dans ta tête, mais c'est juste que, tu vois, pour moi, être en lutte contre un monde, c'est pas seulement se dire que ce monde-là, il est pourri et que... Et voilà, tu vois. Enfin, c'est pas juste dire des choses, c'est faire des choses. Et c'est enfin, tu vois, je pense qu'on est en guerre. Enfin, quand je dis des pratiques, c'est pas forcément des pratiques physiques ou quoi que ce soit. C'est juste... Enfin, c'est pas des guerres frontales ou quoi. C'est juste que... j'ai l'impression que... En fait, dans cette guerre-là, il faut se mettre en jeu. Et du coup, on se met pas en jeu seulement en pensant qu'il faut être en lutte, quoi.
C'est une bagarre, déjà. Enfin, une bagarre, évidemment, pas physique. Mais en tout cas, c'est quelque chose de l'ordre d'un combat. Alors, c'est difficile parce que les mots qui me viennent d'un vocabulaire guerrier. Et c'est pas forcément... ça me représente pas. Donc, c'est compliqué de trouver les bons mots.
Je sais pas vraiment la définition, j'ai pas repris la définition de la lutte, mais voilà, moi je suis pas la lutte, le point en avant. Je crois pas être une guerrière en tout cas. Je suis quand même assez réservée. Mais quand même, quand je suis convaincue de quelque chose, quand j'ai vraiment des convictions, je sais les défendre. Et j'aime les défendre. Ça me plaît ça.
Alors on a réfléchi, on a cogité, on est allé rencontrer des gens et on est allé aussi chercher des textes. On parlait de vocabulaire guerrier là, juste à l'instant. Toi Emma, t'as trouvé un texte qui nous vient de Léo Thiers-Vidal.
Ouais, alors c'est un texte que moi j'ai trouvé dans le bouquin « Trahison pro-féministe et rupture anarchiste ». Et c'est un texte de Christiane Rochefort. Et c'est un texte que j'aime bien et que j'avais envie de partager parce qu'il me donne de la force et qui me donne de la force. Voilà, je vais le lire. Il y a un moment où il faut sortir les couteaux. C'est juste un fait. Purement technique. Il est hors de question que l'oppresseur aille comprendre de lui-même qu'il opprime, puisque ça ne le fait pas souffrir. Mettez-vous à sa place. Ce n'est pas son chemin. Le lui expliquer est sans utilité. L'oppresseur n'entend pas ce que dit son opprimé comme un langage, mais comme un bruit. C'est dans la définition de l'oppression. En particulier, les plaintes de l'opprimé sont sans effet, car naturelles. Pour l'oppresseur, il n'y a pas d'oppression. Alors forcément, c'est un fait de nature. Aussi est-il vain de se poser comme victime. On ne fait par là qu'entériner un fait de nature, que s'inscrire dans un décor planté par l'oppresseur. L'oppresseur, qui fait le louable effort d'écouter, libéral intellectuel, n'entend pas mieux. Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. C'est ainsi que de nombreux mots ont pour l'oppresseur une connotation jouissance et pour l'opprimé une connotation souffrance, ou divertissement corvée, ou loisir-travail, etc. Alors, allez causer sur ces bases. C'est ainsi que la générale réaction de l'oppresseur qui a écouté son opprimé est en gros « Mais de quoi diable se plaint-il ? Tout ça, c'est épatant. » Au début de l'explication, c'est tout à fait sans espoir. Quand l'opprimé se rend compte de ça, il sort les couteaux. Là, on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pas avant. Peu importe le caractère, la personnalité, les mobiles actuels de l'opprimé. C'est le seul pas réel hors du cercle. C'est nécessaire.
Alors on va continuer à écouter nos témoignages.
Bon, je pense que je définirais être en lutte de manière assez large, quoi. C'est-à-dire aller contre quelque chose qui s'impose à toi.
Mais une lutte, c'est essayer de gagner des choses, de résister à des choses, ça serait ça pour moi, une lutte. Et c'est vrai que ça, la majorité des luttes un peu collectives, des luttes révolutionnaires, on va dire, ça a toujours été contre des choses. Ça n'a pas été pour. Donc ouais, voilà, c'est des combats pour gagner... de l'autonomie, pour gagner de l'émancipation, évidemment, individuelle et collective. En premier, collective. Quand même, la première image qui me vient, c'est le collectif dans une lutte.
C'est ça, c'est qu'en fait, il y a tellement de formes de lutte différentes. Il y a la lutte pour gagner des choses et il y a la lutte pour ne pas en perdre, peut-être, pour ne pas rentrer dans quelque chose. C'est vrai que c'est intéressant, cette question. mais parce que je crois aussi que créer, c'est une manière de résister, en fait. C'est aussi une manière de dire non, en fait, à plein de choses.
En fait, j'ai l'impression que à chaque fois que tu essayes de mettre, par exemple, des bâtons dans les roues, dans des... à des je sais pas, des trucs qui te sont imposés, notamment par l'État, par exemple, et ben voilà, tu commences à être en lutte, quoi. Pas forcément saboter des machines, mais je sais pas, genre faire des petits actes de résistance, quoi. Mais pour moi, la lutte, c'est pas que la résistance, parce que c'est pas que un truc de contre, en fait. Enfin, c'est pas que une réponse à quelque chose, en fait. Contre quelque chose. C'est aussi, c'est à la fois de la destruction, des petits actes de destruction, et à la fois des actes de construction. Et c'est un mouvement perpétuel entre les deux, en fait. L'un ne va jamais sans l'autre.
Contre tout. Vous voulez quoi? Tout. Nous ne voulons pas de miettes. Nous ne voulons pas même le gâteau. Nous voulons la boulangerie. En lutte. Contre ce qui en nous fait exister ce monde d'oppression. En lutte contre ce qui partout fait perdurer ce monde d'exploitation. En lutte inlassablement, en lutte. Mais comment faire? Contre les bleus qui vocifèrent, la justice qui incarcère, les égaux qui dégénèrent. Course de fond. Petite foulée, sprint, repos, recommencer, comme on peut, où on est. Et puis vivre, maintenant, sans attendre les lendemains qui chanteront, peut-être, ou peut-être pas. Sans attendre, faire sonner les matins, raisonner nos jours et reluire nos nuits. Tranquille, sans héros ni martyrs. Doucement, avec prudence et délicatesse. De là où nous sommes, à partir de ce point qui reste à préciser ce là où nous sommes. Pas simple. Tu es là, et moi ici. Tu vis ça, pas moi, inversement. Aucune condition structurelle préalable peut faire exister ce « nous » comme sujet, comme point de départ. Aucun matérialisme scientifique ne suffira à déterminer avec qui se battre et pourquoi. Il faudra décider, décider ensemble, faire commun, faire commune. Et déjà, faire attention, prendre soin, écouter, regarder, entendre. Et voir, en tout cas essayer, toujours. Il faut parfois longtemps pour comprendre, comme prendre avec. Rester ouvert aux inconnus, pas de parti, même imaginaire, pas d'État, même socialiste, pas de pouvoir, même populaire, pas de prison, même du peuple. L'assemblée comme base, la base assemblée qui parle, s'écoute, décide, agit. La délicate tâche de construire les outils de l'autonomie, de penser, d'agir, de se lire, de se voir, de s'entendre, de se trouver. Sans préalable, sans identité figée, mais avec ce que nous sommes, ce qui nous fait, ce à quoi nous sommes assignés, dans nos limites et nos désirs, nos envies immédiates et nos rêves lointains. Parfois, simplement pour un peu plus, 3 francs 6 sous. Et aussi, parfois, pour tout le reste, du pain, et des roses, arracher du temps aux labeurs harassants, arracher la satisfaction de nos besoins à la marchandise, produire des mondes qui soient la négation de ceux qui exploitent, la négation des dominations. Dans ce mouvement même de destruction, construire. Rome n'a pas été détruite en un jour. Alors comment on dure? Comment on tient? Comment on tient ensemble à la fois ce qui reste des ruines du vieux monde et ce que l'on ignore d'un autre avenir qui laisserait de la place et de l'oxygène, qui laisserait vivre et mourir, et qui ne laisserait personne cracher du sang pour qu'un autre vive mieux.
Déjà la mère à la maison nous criait « Vivez vos passions !» Par la fenêtre. Et j'appelais tous les copains, les petites filles des voisins, pour aller tenir dans nos mains la mitraillette. C'était celle d'un très vieux cousin qu'avait rougi du stalinien dans l'Espagne en fête. Plus de hasard, plus de destin, on se disait c'est pour demain. On la ferait claquer dans nos mains. La mitraillette. Faut dire que les syndicats bordel nous pourchassaient dans les ruelles. Rien qu'à nos têtes. On était déjà les rebelles qui remplissions toutes les poubelles des idées anciennes et nouvelles. Sans mitraillette. Curé salaud, patron pêle-mêle, vous n'aurez pas notre envie belle. Viendra la fête. Il y aura le jeu du plus cruel, on empaillera le flic modèle. Pour que plus tard on se rappelle. Leur drôle de tête. Faut dire qu'on y mettra du cœur. Les pétroleuses étaient nos sœurs. Vienne la tempête. Macno Villa et Durruti ont déjà su manier l'outil qui fait revivre la poésie. La mitraillette. On leur filera même à Bono pour qu'ils reviennent dans son auto. Trancher des têtes. Et l'on verra cette société spectaculaire assassinée par les soviets du monde entier. À coups de mitraillette.
Zéro, brassage radio.
Tu prends la radio, tu la brasses, tu la brasses, tu la brasses.
D'un point de vue, enfin, à un niveau individuel, je pense que je distingue d'une part les luttes que je mène quotidiennement, je pourrais dire, en tant que meuf par exemple, que ce soit dans la rue, que ce soit voilà, peut-être aussi dans ma vie conjugale, sur le fait de, d'être assez souvent en alerte et en capacité de répondre, de réagir à ce que je sens être un rapport d'agression ou de domination à mon égard. Et en même temps, c'est complètement différent des instants de lutte collective.
Dans le féminisme, c'est difficile de capter à quel point tu le fais. Bah, enfin, du coup, là, par exemple, en tant que personne concernée, à quel point tu le fais pour toi ou à quel point ça a une dimension collective, justement. Bah, là, par exemple, je pourrais parler de ce qui s'est passé assez récemment au sein du collectif que je milite. C'est-à-dire qu'on a appris qu'un des mecs du collectif assez actif avait commis une agression. Sur une autre camarade. Enfin, c'est un moment que je trouve assez illustrant par rapport à ça, parce qu'il y a une dimension individuelle d'arrêter de fréquenter une personne qu'à la base on affecte, ouais. Parce que, pas pour quelque chose qu'il t'a fait à toi-même. Et enfin, ça, il y a un truc individuel, un pas à faire assez individuellement. Et après, ce qui a été cool, on s'est regroupé avec pas mal de meufs, notamment qu'ils connaissaient, pour brasser, pour essayer de mettre plus au clair sur cette situation et sur lui, ses rapports de domination. Et du coup, c'est une situation à la fois qui permet de regarder rétroactivement cette personne à travers... une analyse nouvelle et du coup de mettre à jour, mettre en lumière quoi, des situations auxquelles on n'avait pas accès vu qu'on les avait intériorisées d'une certaine manière, enfin, et du coup prises comme normales quoi, et ce truc aussi de, bah, voilà, de se réunir à plusieurs meufs concernées ou pas pour le convoquer et pour le recadrer et pour réfléchir de ça. Et que cette situation particulière ait créé une émulation plus large où ça a parlé à plein de meufs et qu'au final, ça fait écho à tout le monde. Et de là est née une grande AG non mixte de meufs qui vont créer des permanences par rapport aux oppressions aux oppressions et aux agressions dans le milieu militant. Tout ça, bah, ça, c'était trop cool. Enfin, c'est parce que c'est en cours et c'était trop cool, je pense.
Que ce qui met en action, généralement, c'est la enfin, c'est une réponse un peu plus classique, mais c'est la sensation d'injustice et ou toute sensation d'oppression. Ce qui expliquerait aussi pourquoi les gens qui ressentent à un moment donné une injustice ou X ou Y, ils vont se mobiliser contre celle-là. Et ce qui fait aussi qu'on peut supposer que des gens qui vivent dans un confort plus ou moins grand vont être moins susceptibles de lutter. Et que ça concerne... qu'à chaque fois, les luttes sont menées par les premiers concernés, parce que c'est au moment où on sent profondément, on ressent une injustice, ou à la limite où on en est témoin, qu'on peut avoir une raison de se mouvoir, de se mettre en lutte, etc.
Une personne tout seule qui va dire... qui va amener une idée ou revendiquer quelque chose, on va lui dire, c'est pas tellement important. Et puis, si on a 10 ou 20 qui disent la même chose, ou 30, ou, voilà, ben forcément, ça a plus de poids. On va se dire, c'est pas l'idée de Daniel Huberlu, c'est ah tiens, c'est quand même bizarre. Tout le monde pense la même chose. Peut-être qu'ils ont raison. Ils pensent tous pareil.
Un mouvement, ça peut être qu'un truc collectif, tu vois. Après, évidemment que ça se enfin, tu vois, que les formes de lutte, elles se déploient à plusieurs échelles. Et que, oui, par exemple, je sais pas, pour des petites actions de sabotage ou des trucs comme ça, tu vas pas faire ça à 40 000. Encore que ça dépend, tu vois. Enfin, ça dépend. En fait, tout est histoire de situation aussi, tu vois.
Des luttes auxquelles j'ai pu participer qui ont été souvent liées à mon domaine soit quand j'étais en études soit en tant que travailleuse, que ce soit sur mon lieu de travail ou voilà, à l'école et à la fac, et comment c'était à la fois un sentiment de d'injustice déjà qui nous animait, et aussi non seulement de porter des revendications et voilà, de se mettre en grève, d'occuper, de négociation, mais aussi tout ce partage de vécu collectif qui faisait que pendant un temps, en fait, le temps était comme suspendu et que il y avait plein de choses qu'on a réinventées, qu'on a créées différemment.
Les toutes premières luttes, ça a été dans les mouvements lycéens. Mais bon, moi je vais faire l'ancêtre de la bande son et donc c'était plutôt le tout début des années 80, et ce qui me portait surtout, c'était de voir tout ce collectif, tous ces gens en même temps, toutes ces discussions, qu'on avait l'impression d'être ensemble, que j'avais l'impression de me faire plein de copains, que c'était contre l'administration. J'étais au collège. Et du coup, voilà, ça faisait sauter tout cet asservissement du prof, du collège, du proviseur qui venait.
Le groupe, il a une force. Il a une force de lui-même. Il va se motiver, il va se nourrir, du coup, il va avancer et il s'entraîne, en fait. Il s'entraîne tout seul au bout d'un moment. Et le groupe, il se nourrit lui-même, en fait. Hein. Parce qu'en fait, il y a des discussions dans le groupe, il y a des prises de position, il y a des idées qui circulent, et c'est ça qui fait avancer.
Dans le travail, ça peut être aussi s'organiser avec des gens qui ont un peu le même statut, et pour réussir à gagner une lutte ensemble, même s'ils n'ont pas le même statut, mais qui vivent les mêmes oppressions et les mêmes difficultés. Et là, ouais, tu te sens moins seul parce que tu t'organises, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit dans ton quartier, que ce soit sur une lutte plus transversale, comme la lutte, par exemple, contre les prisons, qui là, ce n'est pas une question de travail ou de quartier, mais c'est une question d'idées, et où tu t'organises avec des gens anticarcéraux comme toi pour lutter contre ça. Et qui te portent, parce que le fait ce qui est beau dans une lutte, c'est que ce soit collectif aussi.
Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
C'est pas l'objectif à atteindre, c'est ce qui se passe entre les gens, quoi.
Moi, j'ai toujours pensé que j'étais née un peu dans un creux de vague de l'histoire et qu'on était là pour... Enfin, que si j'avais quelque chose à mener ou une lutte à mener, c'était vraiment dans les moyens plus que dans la fin, c'est-à-dire dans la manière d'être et d'agir avec les autres.
Parce qu'en fait, la lutte, ça ne se sépare quand même vraiment jamais du sens que tu mets derrière et du coup, un peu de... ce que tu enfin pas de forcément ce que tu projettes mais d'une idée d'une certaine idée de la vie que tu peux avoir et du coup moi je enfin je me vois pas à aucun moment je me vois être seule quoi enfin j'en ai pas du tout envie du coup évidemment que le groupe c'est quelque chose qui est nécessaire parce qu'en fait je trouve ça pas très très intéressant enfin je trouve pas ça très intéressant de lutter seule, c'est épuisant et puis ça a pas de... Enfin pour moi juste ce qui se joue dans la lutte en fait, presque plus que d'arriver à ses fins, parce qu'en général c'est quand même hyper difficile, même si c'est toujours à avoir en horizon, mais ce qui se joue c'est ce qui se passe entre les gens.
Et par exemple une fois on a occupé une gare routière. Bon, c'était des intermittents, mais la forme, c'était des AG permanentes et ça marchait bien. Et puis en plus, ben, la majorité des gens, ils n'ont pas de main gauche, donc on fabriquait aussi des choses, on faisait en même temps. Et là, je me suis mis à fond, j'étais salariée à ce moment-là, je me suis mis en maladie, mais j'y étais à fond, à fond. Mais justement, par cet engouement, par les relations qui se créaient, par ce que ça... développé entre les gens, parce que j'apprenais aussi des gens, aussi bien dans les discussions, aussi bien dans une culture générale, que aussi dans du faire ensemble. Moi, c'est ce qui me porte le plus, c'est vraiment du faire ensemble. Parce que franchement, je ne suis pas la petite soldate de l'armée rouge. Hein. C'est pas ça qui me porte.
En pratiquant des choses ensemble, comment tu penses ensemble, comment tu vis ensemble, comment, tu vois, par exemple, je pense trop à des occupations à la fac, enfin, pendant un mouvement, tu vois, par exemple, c'est typiquement le truc qui est complètement ouf, quoi, c'est ta vie, elle prend un... Enfin, tu vois, il y a une temporalité qui change, tu bouffes avec des gens, tu dors avec des gens, tu tchatches, tu vas au-delà de ce que tu peux être, un peu, tu vois. Moi, j'ai l'impression que c'est souhaitable d'être tout le temps dans des mouvements collectifs quoi tu vois dans des mouvements communs et... parce que en fait c'est plus beau c'est plus riche c'est plus intéressant et puis en fait ça a pas de sens de faire des trucs tout seul enfin pour moi vraiment ça a aucun sens
ça marche d'être uniquement en lutte et de vivre que pour ça si on se sent heureux là-dedans et que réellement on a l'impression d'en retirer quelque chose alors ça peut être juste une force collective ça peut être des relations aussi, je pense, amicales et ou des relations de camaraderie, de lutte, etc. Mais lutter en étant malheureux, ça me semble... Enfin, c'est quand même assez récurrent, mais ça me semble être la chose la plus difficile et c'est ce qui peut faire que des gens se mettent à l'écart, j'imagine. Faire que ce soit le truc principal d'une vie, c'est parce que ça... On en retire quelque chose.
Bras zéro, approche-toi moins du micro.
Alors moi j'ai ramené un texte, c'est un extrait d'un bouquin qui s'appelle Le contraire de 1 de Eri De Luca, où il parle de ses débuts dans la lutte. Ça parle d'action, d'assemblée, mais aussi de solidarité et d'autodéfense collective. C'est comment on s'organise dans et face à la répression. Alors peut-être juste pour contextualiser un tout petit peu, c'est l'Italie dans les années 70. Et peut-être contrairement à la France où il y a eu une espèce de grosse explosion en 68, là ça va durer beaucoup plus longtemps. Et pendant une dizaine d'années, c'est un mouvement un peu rampant avec voilà, une grosse ébullition, avec plein de collectifs différents, des grèves, etc. Et voilà, c'est juste, ça explique un peu les termes qu'on entend dans le texte qui sont un peu différents, comment ça parle de révolution, de guérilla. Et en même temps, il y a quand même pas mal de trucs qui se font écho, enfin qui font écho à aujourd'hui. En arrivant à la caserne, lui te dit « Quand ils ouvrent, moi je sors en premier et toi tu viens derrière. Reste collé à moi, marche le plus vite que tu peux. Ne t'arrête pas, surtout ne tombe pas. Regarde seulement par terre, où tu mets les pieds. Ils nous font passer au milieu d'eux. Si tu tombes, tu en prends plus qu'avant et tu en fais donner à ceux de derrière qui ne peuvent pas passer. Et c'est comme ça. Il prend les premiers coups de poing et va droit au bout du couloir des coups, sans trébucher dans les pieds. Les croche-pattes. Tu es contre lui et tu parviens à entrer dans la grande pièce sans d'autres coups sur la tête. Rien que des coups de pied. Il t'a ouvert le passage. Tu ressens envers lui une gratitude à pleurer. Derrière toi, le premier a trébuché. Tu as entendu ses cris, tu ne t'es pas retourné. Quand ils arrivent aussi dans la salle, tu t'es mis les mains sur les yeux et tu ne veux pas regarder. Mais il te faudrait deux autres mains pour les oreilles. Tu lui dis merci. Il répond qu'il ne l'a pas fait pour toi, mais pour lui, car si tu étais passé avant et que tu t'étais arrêté, lui en prenait plus. « Combien de fois t'ont-ils pris ?» demandes-tu. « Plusieurs fois. » « Vous êtes assis côte à côte. »« Ne demande pas d'aller aux toilettes, » dit-il. « Si tu ne peux pas te retenir, fais sur toi. De toute façon, ça sèche vite. » Tu lui demandes s'ils vont nous arrêter. « Si nous passons la nuit ici, non. Ils nous relâchent demain matin. Sinon, dans la soirée, ils nous conduisent en prison. » Et au moins là, tu peux pisser en paix. Tu ne t'es pas enfui ? Te demande-t-il. Non. Lui non plus. Ceux qui ne veulent pas fuir commencent à se trouver. Une file d'obstinés commence à se former. Ils sont encore dispersés, mais on se connaît. Vous échangez vos noms. Ainsi se passe ta première nuit au poste, à parler de demain, des prochaines fois, de comment arrêter les assauts. Voilà. Toi, tu es quelqu'un qui a commencé comme ça. Le matin, ils vous mettent dehors. Tu ne vas pas aux urgences, mais chez un médecin qui aide les blessés des manifestations. C'est lui qui t'y conduit, l'ami de moins d'un jour, à qui tu confierais tes deux yeux, car ce sont des jours où la confiance, la loyauté et même le destin vont vite. Dans les réunions, beaucoup en connaissent beaucoup. On parle de ne pas se laisser envoyer les quatre fers en l'air, de préparer des défenses avec ceux qui se sentent capables de serrer un rang. Le plus clairvoyant d'entre nous dit qu'il n'y a pas de différence entre violence d'agression et violence de défense, qu'une barricade est violence pure, une pierre et une bouteille d'essence aussi. Il dit que toute la différence est entre violence d'État et violence du peuple. L'une est abus de pouvoir, l'autre non. Et puis, il dit qu'il faut s'enlever de la tête des mots exotiques venus d'autres continents, par exemple « guérilla », qui veut dire « petite guerre ». Chez nous, dit-il, on fait une bataille de rue, pour pouvoir rester dans la rue, même contre les interdictions, pour ne pas se laisser disperser, pour ne pas se faire arrêter. Ce n'est pas une guerre la nôtre, ni petite ni grande. C'est un adroit vol à la tire de quelques heures de manifestation. Nous ne libérons pas des territoires, nous prenons seulement la liberté d'être contre tous les pouvoirs constitués. Cela paraît un peu peu à certains. Et la révolution ? Elle vient, si elle vient, au bout de nombreuses journées de démocratie volée. Telle est la révolution, une subordonnée pour nous aujourd'hui. Mais il nous incombe d'agir comme si nous l'avions à l'ordre du jour et d'être au monde en révolutionnaire. Non pas pour la révolution, mais pour la plus élémentaire forme de la démocratie qui est le droit de manifester. Trouver des logements où puissent vivre ceux des nôtres qui sont en fuite, des avocats qui défendent au tribunal les raisons politiques de nos mouvements mis en accusation, des médecins qui soignent les blessés hors de l'hôpital.
Enfin, c'est pas juste des inconnus, quoi. C'est plein de gens que tu rencontres et où tu commences à grave avoir des affinités politiques. Et puis même au sein de cette grande lutte, à Toulouse, il y a eu l'AG de lutte. Et en fait, ça renforce. Enfin, et aussi avoir officiellement dans ton camp, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a des positionnements grave différents dans ce qu'on pourrait appeler ton camp. Ça te bouge grave dans ta tête, quoi, pour te positionner de plus en plus et du coup t'affiner quoi politiquement. Et ça, j'ai trouvé ça, enfin, rien que sur ce plan théorique, c'est con, mais enfin, même si ça a grave fighté et que ça a été violent à certains moments et tout, mais moi ça m'a grave enrichi quoi, d'à la fois lutter contre quelque chose qui est extérieur à nous et comment toute l'exploitation, la domination, l'oppression, elle est aussi présente au sein du groupe et il faut lutter et la déconstruire aussi. Et ça, pour le coup, je pense qu'il faut jamais peut-être prioriser l'un ou l'autre. Enfin, quoique parfois, il faut commencer par le groupe pour avoir des bases plus ou moins stables, quoi. Pour pas que le truc s'éclate la gueule aux moindres difficultés.
Pendant différentes luttes, il y a ce truc-là de vouloir faire des assemblées, de vouloir mettre en résonance, mettre en lien différentes personnes pour arriver à se parler. Et tu vois, c'est vraiment... réapprendre à se parler, quoi. Enfin, apprendre à se parler, parce que cette pratique-là de... Alors, l'Assemblée, ça... Enfin, l'Assemblée, comme elle s'est développée pendant ces derniers mouvements, elle a beaucoup, beaucoup d'écueils. Mais en tout cas, ce qu'on peut pas lui enlever, c'est d'avoir envie de mettre en lien des gens et qu'ils puissent débattre de certaines positions et qu'ils puissent justement arriver à se mettre en conflit et arriver à trouver des directions ou non, mais en tout cas avoir un espace de parole qui puisse permettre de construire quelque chose, tu vois. Et oui, c'est super long et c'est super chiant, et... mais voilà, je trouve que ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est d'arriver à échanger, d'arriver à trouver des compromis, d'arriver à bouger de ses positions, d'arriver à faire des trucs ensemble, quoi. Et réapprendre à entrer en conflit, quoi. Surtout, c'est ça qui est trop important, je trouve.
Moi, une des luttes qui m'a vraiment beaucoup marquée, c'est contre AZF. Pourquoi ? Parce que c'était quelque chose de très, très ouvert. Avec des gens, ça aurait été improbable jusque-là que je me retrouve avec eux pour lutter, parce que l'usine, elle nous avait pété à la gueule. Et il y avait quelque chose à la fois de très humain et qu'on n'était pas dans des bagarres de chapelle. On y était, mais ce n'était pas ça qui était majoritaire. C'était le fait de se retrouver comme contre quelque chose d'inadmissible, c'est-à-dire on se fait péter, on nous a pété une usine à la gueule. C'est inadmissible, on se retrouve et qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Et on se retrouve avec plein de gens différents, avec des gens du quartier autour, des gens qui sont sensibilisés à ça. Voilà, c'est ce genre de lutte qui a été pour moi porteuse justement par rapport à la diversité des personnes avec qui j'étais.
Et quand je parle du collectif et du comment tout ça, c'est toujours dans un truc, enfin c'est toujours dans une forme qui est jamais figée. C'est pas un groupe distinct à un moment donné, c'est plutôt un truc aussi pareil qui est traversé par des gens qui partent, qui reviennent, qui apportent des trucs, enfin c'est plus une idée qu'un truc figé, quoi.
Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans aucun rêve en toi, résiste, prouve que tu existes, cherche au bonheur partout, viens, bats-toi contre mon égoïsme. Est-ce que ça vaut la peine? Si l'on veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas comme ça qu'on t'aime.
Non, c'est pas comme ça.
Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches sans aucun rêve en toi,
résiste!
N'écoutez pas Brasero, on s'en charge.
Donc, puisque vous n'écoutez pas, on va vous parler. On reprend l'antenne en direct Brasero Collectif sur le 92.2 Canal Sud. Alors, comment est-ce qu'on a fabriqué tout ça ? Telle est la question, telle est la problématique qu'on se pose là. Alors, qu'est-ce qu'on a entendu jusque-là ? Plutôt définition de la lutte et le collectif et l'individuel. C'est un peu comme ça qu'on a rangé ça, parce que rappelez-vous, on a posé plein de questions. Et évidemment, tout n'a pas tenu dans une seule émission, c'est pour ça qu'on en fait trois. On a d'autres thèmes, la question de la grève, les modalités de la lutte, les raisons, les émotions, etc. Tout ça va arriver. Mais peut-être dans le comment est-ce qu'on a fabriqué ça, on est 8 personnes, 7 personnes à avoir participé à ça. On a toutes fait des entretiens ou presque. Et après, on a essayé de monter à plein, quoi. Et moi, peut-être pour éclairer un peu les auditrices et les auditeurs, c'est de savoir un petit peu comment est-ce qu'on trouve des personnes à interviewer quand on est comme ça avec sa série de questions, quand en plus on n'a pas forcément fait de la radio avant. Peut-être soit comment est-ce que vous avez fait ou comment est-ce que vous pourrez qualifier un peu les personnes que vous êtes allées voir ou pourquoi, qu'est-ce que vous cherchez quand vous étiez allé les voir, ces personnes-là. Attention, question à la cantonade.
Moi je pense que je suis allée voir, peut-être c'est con, mais des personnes qui sont proches de moi et que je trouve super chouettes et qui sont super classe et qui font plein de trucs trop bien. Et en même temps, j'ai pris la facilité parce que c'est des personnes très proches de moi avec qui je vis aussi, quoi. Et que ça nous a permis de poser un moment aussi de discussion sur des questions de fond politique que finalement on n'a pas forcément le temps de se poser dans notre vie quotidienne. Et du coup, c'était un moment, je pense, qui a été assez chouette aussi de se demander, vas-y, là, on prend une demi-heure, on s'écoute grave et on se questionne un peu, quoi, sur ce qu'on fait et sur pourquoi on le fait, quoi.
Ben moi, je suis allée chercher un copain, une copine avec là où je travaille, c'est-à-dire à l'université, et des gens avec qui je m'organise. Et voilà, parce que c'est des gens avec qui je fais des trucs et donc ça m'intéressait de leur poser ces questions-là. Et puis il m'est arrivé le truc qui est un peu classique, je pense, c'est qu'ils ont répondu à mes questions, j'ai posé mes 4 questions qu'on avait prévues, et puis j'ai arrêté l'enregistreur, et c'est là en fait qu'on s'est mis à discuter vraiment. Alors vous n'avez pas tout dans les enregistrements, mais en tout cas pareil, ça a posé pas mal de questions, et voilà, on a eu pas mal de conversations autour de ça.
Moi c'est un peu pareil, c'est des personnes que j'ai choisies parce que je suis assez proche d'elles. Et en même temps, je trouvais qu'elle représentait en fait des niveaux d'engagement en fait différents. Il y avait une personne qui était elle qui se définit comme étant en lutte permanente et qui fait beaucoup d'actions et tout justement par rapport à ça, et une autre qui aurait tendance à pas se définir justement comme étant en lutte, mais au final, en discutant avec elle, je me suis rendu compte qu'elle était autant en lutte en fait que... Enfin, les deux en fait sont pas forcément sur le même niveau, mais sont autant en lutte l'une que l'autre. Et je trouvais ça intéressant justement de confronter ces discours-là et de voir où en fait la lutte, elle est un peu partout en fonction de comment on la définit, quoi.
Moi, j'étais en train de prendre l'apéro avec 3 personnes, dont une que je ne connaissais pas. Donc j'ai posé des questions, j'ai posé le micro et les 3 personnes se sont mises à discuter entre elles. Et c'était très intéressant d'entendre la discussion et du coup, t'as l'impression de connaître les gens directement, alors qu'on ne la connaissait pas du tout, par exemple, la 3e personne. Et le débat s'est enclenché et c'était super.
Alors ça, du coup, ça fait un peu de teaser parce que c'est dans 15 jours. Dans 15 jours, on va entendre ce que tu as fait, parce que toi, tu étais parti sur 2 autres questions. C'était comment est-ce qu'on fait grève et qu'est-ce qui nous empêche de faire grève ? C'est-à-dire plus sur la question de la grève, qui était une première question, parce que bon, pour la petite histoire, on voulait faire cette émission pour le 1er mai. Et voilà, le temps a passé, mais comme ça a été dit en introduction, ça prend du temps de discuter, de faire ensemble, de mettre tout quand on revient avec, tiens, on a 2h30 de rush, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que tout le monde a écouté les 2h30 de rush ? Donc comment est-ce qu'on fait avec tout ça ?
Se réapproprier le temps, c'est une lutte aussi.
C'est ça. C'est la première. Et du coup, on entendra cette histoire de la grève, donc cette discussion à l'apéro et au roulage de clopes dans 15 jours, exactement. Donc ça sera ça dans 15 jours. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ça? Parce que donc là, on parle de ce que ça fait aux gens quand on en parle au moment où on fait l'entretien. Et là, la question piège, hein, qu'on n'a absolument pas préparée, mais qu'est-ce que ça nous fait à nous à ce moment-là quand on écoute et qu'on se demande à un moment, mais voilà, qu'est-ce que c'est que la lutte? Est-ce qu'on arrive à avancer ou est-ce que ça fait encore patchwork? D'entendre ça, ou est-ce qu'il y a une réaction à chaud, à brûle pour point que vous pouvez avoir ici et maintenant? Attention, c'est parti.
Non, bah, moi je trouve que écouter tout ça, en fait, ça te fait réfléchir un peu à ton propre positionnement par rapport à ça où tu te rends compte que tu peux avoir une définition qui est un peu étriquée de la lutte et entendre différents discours, différents positionnements par rapport à ça. Je trouve que c'est assez intéressant pour se remettre en question là-dessus.
Ouais, et puis je pense qu'il y a un truc, moi, qui m'a fait vachement écho, c'était de me dire que ces questions-là, je les ai posées à deux personnes, mais après j'en ai parlé à plein de gens, et du coup je me suis posé plein de questions avec plein de gens différents. Et qu'à un moment, je crois que ça m'a aussi, ça arrive à un moment aussi de ma vie peut-être, où ça me posait d'autres questions de ma pratique de la lutte, et de qu'est-ce que j'y mettais, et de pourquoi on y mettait ça, et puis dans des rapports hyper collectifs, quoi, de qu'est-ce qu'on est en train de créer, et jusqu'à où on est prêt à aller, et qu'est-ce que ça veut dire. Et du coup, c'était comme peut-être un moment, je sais pas, qui était important, je pense, de... Ben voilà, quoi, où tu poses un peu un truc que t'as pas forcément le temps de poser, parce que tu fais mille et une choses. Et là, tu as une occasion pour les poser et du coup, tu te les poses un peu, quoi. Du coup, c'était une véritable période d'introspection.
Mais après, moi, ce que ça me renvoie, c'est d'abord, j'ai l'impression que c'est, à la fois, ça me fait penser, ça s'effiloche à chaque fois, comme si ça prenait pas sens forcément. Et en même temps, ça me nourrissait vachement. Et j'aime bien ce truc aussi de mettre en circulation plus des questions que donner des réponses. Genre on aurait pu passer du temps à essayer de donner des réponses, à aller chercher un truc, à faire une définition de la lutte, commencer avec un truc vachement construit. Et j'aime bien ce truc-là qui brasse et que même, à la limite, je trouve que peut encore... J'espère qu'il y a des gens qui écoutent et que ça peut faire réfléchir. Et dans 15 jours, il y aura un autre opus et un troisième et qu'on puisse en continuer à discuter et que ça soit justement mettre en circulation, finalement, ces questionnements qu'on avait eus qui partait déjà de questions. On s'est dit, ouais, le 1er mai, on n'a qu'à parler de la lutte. Et puis, genre, l'évidence, c'est le 1er mai, on parle de la lutte ou de la grève et machin, etc. C'est complètement dissous dans la discussion collective. Mais qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis lutte? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis grève, etc., quoi. Non.
Si.
J'ai l'impression que quelqu'un s'approchait du micro, mais elle s'approche du micro, on n'a pas assez de micro.
Moi j'ai l'impression que c'était un moment assez chouette, en plus c'était juste avant les élections présidentielles, alors j'ai l'impression que c'était un moment compliqué pour plein de gens, et du coup me retrouver dans ce petit salon à discuter, j'ai l'impression que quand j'entends les histoires et le parcours des gens dans leurs réflexions, je comprends mieux les mots qu'ils mettent derrière les choses comme la lutte et même comment elles ont envie d'agir. Et à la fin, nous, c'est rigolo parce qu'une fois qu'on a essayé de définir c'est quand les moments qu'on est en lutte, c'est quoi la lutte, enfin essayer d'inscrire un cadre là-dedans, on s'est demandé c'est quand qu'on n'est pas en lutte. Et là, on a dit plein de moments, on en a énoncé plein et après on s'est dit mais non, là aussi, on est en lutte. Enfin, du coup, voilà, c'était aussi dans la suite de ces réflexions de est-ce que c'est transversal, est-ce que c'est des moments donnés, est-ce qu'en fait, on l'a toujours en nous, est-ce que... Voilà, du coup, pour moi, ça m'a fait un petit peu ça.
Je pense qu'il y avait un truc qui aurait pu être un peu marrant et tout, qu'on n'a pas forcément tous et toutes fait. Moi, je ne l'ai pas fait personnellement. C'est d'aller voir un peu des gens qui ne sont pas nos camarades de lutte politique, quoi. Et d'aller voir les réponses qu'ils y donnent et à quel point peut-être il y a des zones de contact, parce que je pense qu'il y en a, en fait. Et que c'est là aussi, il y a un truc à questionner, de à quel point, des fois, on peut se rencontrer sur un principe d'idée et que sur peut-être de la pratique, ça marche moins. Ou peut-être des fois, ça marche aussi ou ça marche plus trop. Et voilà. Après, moi, ça m'a vachement fait écho.
Ah, on On l'a perdu. On l'a perdu. Attention, elle est partie en fou rire.
Et on arrive à la fin. Donc, à bras zéro.
Vous avez des fou rires. Après, moi, juste, il y a quelque chose sur ce truc d'aller chercher d'autres gens. En tout cas, moi, j'entends des croisements et même à monter. C'est vachement intéressant de monter plein de voix qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît, où on se situe plus ou moins les gens, etc. Et en fait, voir des espèces de croisements avec. T'as quelqu'un qui te parle de ses luttes étudiantes et qui sort de la fac, quoi, ou qui a peut-être 23, 24, 25, 26, et quelqu'un qui te raconte de ses luttes quand elle était au collège, au début des années 80. Et elles disent un peu la même chose. En fait, elles sont portées par les mêmes trucs et retrouver cette espèce de la question des outils, la question des moyens, etc. Il y a quand même quelque chose qui perdure et qui résonne, et même avec des mots différents. Mais il y a quand même quelque chose qui prend forme et qui, dans une dispersion d'idées, finit par donner comme même une espèce d'ébauche de définition. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc on dans 15 jours, il y a la suite avec les modalités de la lutte, la grève, raison, émotion, voilà, donc tout ça. Et évidemment, bien sûr, parce que vous vous dites, mais attendez, comment ça, la fin? Bah oui, le compte, ça sera dans 15 jours. On est désolé, il faut qu'à un moment, on fasse durer le plaisir. Donc le plaisir durera. Et maintenant, on part un petit peu en musique. Au revoir, c'était Bras Zéro.
Alors attends, parce que moi, 92.2. Moi j'ai une dernière question pour retourner le questionneur questionné. C'est quoi la musique qu'on va écouter?
La musique qu'on va écouter, ça s'appelle J'en appelle à la fête. C'est un groupe qui tournait dans les années 90 sur Toulouse et c'est une reprise de Santa Claus.
Eh ben, au revoir tout le monde.
Au revoir.
Tu sens ton ventre? Se dresse la colère, tel orage qui gonfle et s'épanche en tonnerre. Ne calme pas surtout, et pas de ta furie, mais raisonnablement, qu'on cherche ton fusil. Mais la vague du monde, et jamais ne s'abaisse, pour connaître sans merci, ne rend pas les falaises. L'armée des balles et des engendre des misères. C'est bien, sous la vague et colère. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie. J'en appelle à la fête et à la liberté. J'en appelle à la fête, à l'amour de la foi. J'en appelle à la fête, et il faut la gagner. Avant le temps engloutir dans cet enfer moderne, pour que le bleu flouté te charge le te saigne. Élève autour de toi, plus sûr que les barreaux, un réseau plus grand, le concept nouveau. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie. J'en appelle à la fête et à la liberté. J'en appelle à la fête, à l'amour et à la foi. J'en appelle à la fête. Et il faut la gagner. Et quand tout le fleuve est sans autre courant, arrachant de passage des rocs résistants, gagne ton embouchure et ne t'ensable pas dans les mers vaseuses du grand calme plat. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie, j'en appelle à la fête et à la liberté. J'en appelle à la fête, à l'amour, à la foi. J'en appelle à la fête, mais il faut la gagner. Les oiseaux migrateurs vont s'endroit sur le cycle, appliquent jusqu'au bout des lourdes certitudes que crèvent les pillards, les flics et les censeurs qui braquent notre vie et polluent notre cœur. J'en appelle à la fête, j'en appelle à la joie. J'en appelle à la fête et à la liberté. J'en appelle à la fête, à l'amour, à la foi. J'en appelle à la fête, mais il faut la gagner. Mais il faut la gagner, mais on peut la gagner.
Zéro, brassage radio.
Tu prends la radio, tu la brasses, tu la brasses, tu la brasses.